Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, les aéroports doivent-ils rester publics ? La pétition lancée il y a 10 jours contre la privatisation d'Aéroports de Paris n'a pas encore atteint la barre des 100 000 signatures, mais elle s'en approche. Ses initiateurs, l'essayiste Coralie Delhomme et l'économiste David Keïla, dénoncent un projet qui aurait notamment pour effet de porter atteinte à la souveraineté de l'État, les aéroports de Roissy et d'Orly faisant partie des principales portes d'entrée sur le territoire. Ils ne sont pas les seuls à s'opposer à la privatisation d'ADP. Le projet, inscrit dans la loi Pacte, actuellement en discussion au Parlement, a été rejeté par les sénateurs. Et dimanche dernier, une centaine de parlementaires, les Républicains, signaient une tribune dans le JDD pour s'y opposer, avec cet argument supplémentaire. Donner les clés d'Aéroports de Paris à un actionnaire privé reviendrait à lui faire cadeau d'une rente aux dépens des finances publiques. Alors le gouvernement s'en défend. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'État, qui détient actuellement 50,6% du capital d'ADP, conservera un droit de regard sur les aéroports. Par ailleurs, l'argent issu de la privatisation sera plus utile ailleurs. Nous voulons passer, dit-il, d'une logique de dividende à une logique d'investissement dans l'avenir. Alors, les aéroports doivent-ils rester publics ? C'est la discussion de ce soir en compagnie de trois invités. Augustin Landier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur de finance à HEC. Je renverrai vers un ouvrage que vous aviez signé avec David Tesmar qui date déjà de 2013.
Oui.
C'était chez Flammarion. 10 idées qui coulent la France. Pour discuter avec vous, Franck Dedieu, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur d'économie à l'IPAG Business School. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef adjoint du magazine L'Expansion. Là aussi, un ouvrage à citer. 2012, chez Gallimard. Inévitable protectionnisme. Vos co-auteurs, Adrien de Tricorneau et Benjamin Mass-Stamberger. Et puis, notre troisième invité, c'est Nathalie Roseau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes architecte et urbaniste, professeur associé à l'école des ponts Paris Tech. Vous avez signé un ouvrage en 2012 aux éditions Parenthèse, Aérocity, quand l'avion fait la ville. Ce sont des ouvrages, c'est pas la totalité de votre bibliographie, aux uns et aux autres. On peut la retrouver évidemment comme chaque soir sur notre site franceculture.fr, sur la page du Grain à Moudre. Alors il faut peut-être préciser que dans cette loi Pacte qui est actuellement en discussion et dans laquelle il y a notamment ces privatisations, c'est pas seulement Aéroports de Paris qui est concerné, mais également la Française des Jeux et Engie, c'est-à-dire l'ex-Gaz de France. Mais manifestement, c'est ADP qui suscite le plus de réactions passionnées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous étonne, Nathalie Roseau, c'est-à-dire le fait que les aéroports et le projet de privatisation provoquent à ce point de telles réactions? Est-ce que les aéroports ont une place particulière, on va dire, dans, je ne sais pas si on peut parler de l'imaginaire français, mais en tout cas dans l'imaginaire d'un pays?
Mais cette année, donc, sont fêtés les 100 ans de l'aviation civile. Donc, effectivement, les aéroports, de ce point de vue-là, qui étaient militaires à l'origine, font partie du patrimoine national, je dirais. Et effectivement, au travers de la société Aéroports de Paris, c'est l'idée d'un patrimoine commun qui est à la fois national et aussi régional, je dirais même grand parisien. Puisqu'effectivement, les aéroports, c'est 7000 hectares de foncier, mais c'est aussi toute une infrastructure en fait aérienne de la région parisienne et du territoire national. C'est aussi la porte d'entrée de la France, pour reprendre un mot rhétorique souvent utilisé, et puis une vitrine à la fois nationale, publique, de savoir-faire, effectivement, du pays.
Quand vous dites porte d'entrée de la France et vitrine, ça veut dire que c'est aussi, en fait, enfin en tout cas pour une partie de ceux qui visitent la France, la première image qu'on va se faire du pays, c'est à travers ces aéroports, et en l'occurrence ceux de Roissy-Charles de Gaulle et d'Orly.
Oui, c'est l'une des portes d'entrée, alors qui peut être critiquée ou pas, mais effectivement, une grande partie des vols internationaux qui arrivent en France transitent par Roissy et Orly. Donc, de ce point de vue-là, symboliquement, effectivement, c'est un espace important. Mais c'est un espace aussi important sur la région parisienne, parce que beaucoup d'emplois s'y trouvent, des centaines de milliers de passagers y passent. Et puis, derrière les aéroports, c'est aussi tout un système d'infrastructures terrestres qui existe et qui soutient, c'est bien le terme d'infrastructure, effectivement, l'aménagement de la région parisienne.
Alors, Augustin Landier et Franck Dedieu, j'aimerais savoir si vous partagez déjà cette première analyse et pour dire peut-être que les aéroports, en l'occurrence les aéroports de Paris, ne sont peut-être pas des entreprises publiques tout à fait comme les autres. Augustin Landier.
Alors, disons que c'est pas des candidats à la privatisation totale les plus naturels. On pourra en discuter des conditions sous lesquelles la privatisation est souhaitable ou pas. Moi, mon point de vue, c'est que dans ce qu'actuellement l'État possède comme actionnaire, il y a des entreprises qui sont des candidats beaucoup plus naturels, comme Orange, Air France, les constructeurs automobiles, qui sont des secteurs concurrentiels. On voit bien que l'État a du mal à définir son rôle aujourd'hui dans ces secteurs. Pour ce qui est des aéroports, comme ça vient d'être dit, il y a une question d'infrastructure. Et puis, ce qui m'intéresse comme économiste, disons, c'est d'essayer de clarifier un peu conceptuellement les arguments qui sont bons ou mauvais et d'essayer d'établir un peu les arbitrages, disons, les lignes de tension. Donc, je trouve, par exemple, l'argument qui est de dire on cède une rente et donc c'est pas à l'avantage du contribuable. Ça, c'est un argument qui n'a de prise que si on pense que le prix auquel on cède la rente est trop faible. Bon, là, c'est si les mises aux enchères sont faites de manière propre, si les règles du jeu sont propres, il n'y a pas de raison de penser que ça sera le cas. Il n'y a pas de raison de penser que le contexte actuel soit un contexte où personne ne sera en mesure de payer assez. Il y a pas mal de liquidités sur les marchés privés qui, a priori, permettraient d'avoir le bon prix pour la rente. Donc ça, par exemple, c'est un exemple d'argument qui, à mon sens, ne tient pas bien la route. Après, il y a l'argument de souveraineté qu'on peut aborder.
Je veux bien qu'on l'aborde, oui, maintenant, effectivement, ouais. Parce qu'on aura sans doute l'occasion de revenir, effectivement, sur cette rente et sur l'intérêt qui peut être celui des investisseurs privés, justement, de devenir actionnaires de ces infrastructures, mais aussi peut-être de l'État, justement, de les conserver parce que c'est intéressant aussi financièrement, mais sur le fait de céder une part de la souveraineté d'un pays à travers la privatisation des aéroports. Est-ce que c'est un argument qui vous convainc davantage, Augustin Landier?
Non, alors là, de mon point de vue, il y a d'autres raisons pour lesquelles je pense qu'on peut être sceptique sur cette privatisation, mais là je trouve que c'est un mauvais argument. Je suis surpris qu'il soit autant mis en avant. C'est assez facile de contractualiser les questions de passage des frontières, d'établir les contrôles qui seront nécessaires pour effectivement que le cahier des charges et puis les lieux qui sont nécessaires pour la présence de douaniers, etc., soient respectés. Donc ça, je suis surpris que cet argument soit mis comme numéro un, alors que je le verrais vraiment comme quelque chose de très ancillaire dans la liste des désavantages liés à une privatisation.
Vous en pensez quoi, vous, Franck de Dieu? Est-ce qu'on pourrait considérer qu'en privatisant, par exemple, l'aéroport de Paris, on privatise le contrôle de nos frontières?
Oui, on privatise une partie de la France, parce que vous avez parlé de porte d'entrée de la France, mais j'allais dire c'est pire, c'est une porte d'entrée sur Paris, sur la capitale. Et il faut bien l'avouer qu'aujourd'hui, les frontières non terrestres, à l'heure de la mondialisation, ont plus d'importance politique, de sécurité, économique aussi, on y reviendra, qu'une frontière terrestre. La France, historiquement, a toujours été obsédée par sa frontière à l'Est, parce qu'elle était terrestre, pour des raisons historiques évidentes. Elle a toujours négligé sa frontière, je dirais, du côté océanique. Et c'est d'ailleurs pour ça, je crois, qu'elle n'est pas devenue une véritable puissance commerciale. Ça, c'est une première chose à dire.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a le risque que le contrôle des frontières soit privatisé? Ça va quand même rester dans les compétences régaliennes de l'État, ça.
Après, on pourra... Oui, effectivement, on peut distinguer la propriété du capital de la question réglementaire pour, je dirais, ficeler le contrat. Mais... bon, d'abord, ça se change, et puis, là, moi, votre question me fait penser, finalement, à l'épisode de 87, vous voyez, il y a 30 ans, d'Edouard Balladur, où Edouard Balladur est soumis un peu, il fait ses privatisations, et il est soumis au même raisonnement, en se disant, mais finalement, à partir du moment où on va avoir un actionnariat populaire et des noyaux durs, c'est-à-dire que les actionnaires institutionnels français pouvaient se tenir par la barbichette, et donc, tout cela resterait français. Et au fond, la propriété du capital, c'était pas extrêmement important à partir du moment où on ficelait contractuellement les uns et les autres. Eh bien, historiquement, aujourd'hui, 30 ans après, il y a l'eau a coulé sous les ponts, les majorités se sont succédées, les noyaux durs se sont ramollis, et vous avez nombre de sociétés qui aujourd'hui battent pavillon étranger. AGF, privatisé, est devenu aujourd'hui Alliance. Vous avez Usinor Sacilor, qui est devenu Arcelor Mittal, avec une casse sociale énorme. Et puis Péchiney, ne parlons pas de Péchiney, qui est aujourd'hui, propriété d'Alcan. Donc pour moi, il y a une question de souveraineté, symbolique et politique, mais aussi de souveraineté économique.
Nathalie Roseau et ensuite Augustin Landier.
Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que c'est aussi intéressant de mettre en perspective le débat par rapport à l'international et l'Europe. Et moi, en écoutant ce que vous disiez, effectivement, je repensais aux aéroports américains, les aéroports aéroports new-yorkais donc sont gérés par la Port Authority of New York and New Jersey, donc l'autorité portuaire qui est un véritable empire, hein, comme l'a signalé un politiste dans un de ses ouvrages. La concession arrivait à échéance, je crois, en 98 ou 2000, et s'est posé la question, effectivement, de savoir s'il y avait privatisation ou pas. Effectivement, l'État fédéral ne l'a pas souhaité, et la concession s'est poursuivie.
Pour des raisons de souveraineté, notamment.
Pour des raisons de souveraineté, parce que dans le débat, effectivement, il avait été question, mais si jamais les aéroports sont rachetés par un organisme qui vient, par exemple, du Moyen-Orient, prenons cet exemple-là, la frontière de l'entrée, effectivement, sur la métropole portuaire de New York sera handicapée, on va dire, même si effectivement après il peut y avoir des contractualisations. Je rappelle qu'au moment des attentats de 2001, tous les aéroports ont été fermés par le FBI, par l'État fédéral. Donc effectivement, il y a un rapport de force qui peut ensuite s'établir avec d'autres acteurs. Mais en tout cas, effectivement, cette question de souveraineté, elle reste vive.
Est-ce que ça veut dire que la France se distinguerait par rapport à ce que font les autres pays en privatisant l'aéroport de Paris? Ou est-ce que, alors vous avez cité l'exemple américain, mais est-ce qu'on peut constater quand même dans d'autres pays plutôt une tendance à aller vers la privatisation? Je crois que par exemple, le grand aéroport de Londres, qui est l'aéroport d'Heathrow, lui est...
C'est Gatwick.
Gatwick, en tout cas, est privé et 100% privé. C'est-à-dire, parce que quand on parle de privatisation, il faut aussi savoir de quoi on parle. Il y a des privatisations qui sont totales et des privatisations qui sont partielles, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais on est plutôt vers quelle tendance ?
Alors, j'ai pas de panorama des tendances. Ce que je sais, c'est que, par exemple, les aéroports turcs sont entièrement publics. Là, il y a un grand aéroport qui vient d'être construit à Istanbul. Qu'effectivement, les aéroports portugais ont été entièrement privatisés. Bon. Pourquoi, dans quel contexte, etc. Que Schiphol, qui est quand même l'un des partenaires à la fois territoriaux...
Ça, c'est Amsterdam.
Et effectivement, aérien de Paris, compte tenu de la proximité des aéroports, et public. ADP, d'ailleurs, en a 8% des parts. Et les aéroports chinois, qui effectivement se multiplient à l'infini, sont publics, de même que ceux du Japon. Donc c'est une question qui, effectivement, a peut-être été évoquée, mise sur la table, mais qui, à chaque fois, pose un certain nombre de questions, et on a quand même tendance à ne pas aller vers une privatisation tous azimuts des aéroports.
Et on peut d'ailleurs préciser que l'aéroport de Paris, qui va être probablement privatisé, a également, de son côté, pris le contrôle alors de l'aéroport d'Amman en Jordanie, de celui de Santiago au Chili. Donc on voit bien que c'est un mouvement complexe et c'est difficile peut-être de définir une règle absolue et claire aujourd'hui dans ce domaine.
D'autant plus que c'est un continuum, c'est-à-dire que même à l'heure qu'il est, l'aéroport de Paris a une cotation boursière et en partie possédé par des acteurs privés qui sont minoritaires. Donc il y a bien un contrôle de l'État. L'État a un droit de veto finalement sur toutes les décisions. Mais c'est déjà une entreprise qui fonctionne avec une logique de maximisation du profit. C'est une entreprise qui a des actionnaires et qui fonctionne comme une entreprise normale. C'est différent d'une entreprise intégralement nationalisée.
Mais ce contrôle de l'État, est-ce qu'il l'est permis uniquement parce que l'État a des parts et est un actionnaire qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire? Est-ce que ce contrôle-là pourrait être le même si c'était un actionnaire minoritaire, voire si cet actionnaire étatique disparaissait totalement. Puisqu'on ne sait pas encore dans quelles conditions vont se passer la privatisation. On ne sait pas très bien si l'État va céder l'entièreté de ses parts pas, Augustin Landier.
Ça, on verra. Il y a des acteurs, les départements veulent se porter acquéreurs. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'État, il y a aussi différentes entités qui peuvent chercher à exercer des contrôles avec des intérêts différents. C'est évident que la région Île-de-France ou les départements qui sont engagés autour de l'aéroport peuvent avoir des intérêts qui sont différents de ceux de l'État actionnaire qui, par exemple, peut vouloir faire en sorte de favoriser Air France. Donc là, c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une question de conflit d'intérêts dans le fait que l'État soit à la fois actionnaire de Air France et de ses aéroports, parce que c'est assez tentant, effectivement, de subventionner indirectement Air France en lui donnant accès à des slots peu chers ou avantagés. Là-dessus, ce conflit d'intérêts, une manière de le gérer, c'est au fond, finalement, de dispatcher le contrôle dans des entités de l'État qui soient différentes. Et je trouve que les départements ou la région Île-de-France sont des candidats assez naturels. Et c'est d'ailleurs, effectivement, aux États-Unis le cas. C'est pas l'État fédéral qui est actionnaire des aéroports. C'est presque toujours les villes ou les États.
Voilà, parce qu'il faut préciser qu'il y a les 7 départements franciliens qui ont fait œuvre de candidature, disons, pour racheter une partie des parts d'Aéroports de Paris. 29,9%. Pourquoi ? Parce que au-delà, semble-t-il,
ça déclenche une OPA.
Donc ils veulent pas aller tout à fait jusque-là. Franck de Dieu, pourquoi ça vous semble finalement si important que ces structures-là, alors au-delà des questions de souveraineté, mais ce soit des structures, en disons, publiques, alors que ce soit peut-être l'État ou que ce soit des collectivités territoriales qui gardent la maîtrise de ces infrastructures, qui sont des infrastructures commerciales. Alors, c'est-à-dire que ce qu'on y fait, avant tout, c'est du commerce.
Alors, premièrement, sur la question de savoir est-ce que c'est pas bien lorsque l'État-nation est actionnaire, mais ce serait bien, parce qu'il y a une mode de la décentralisation, si les régions et les départements le sont. Non, si on considère, comme je l'ai fait, qu'il y a une question de souveraineté nationale et de liée aux frontières, à ce moment-là, il est légitime que l'État soit actionnaire. Mais au-delà de ça, vous avez parlé de la gestion normale, après tout, Aéroports de Paris, et c'est quelque part une société mixte qui est à majorité légèrement détenue par l'État et largement aussi par le privé, et qui a une vie boursière, assez autonome. C'est que tout simplement, ça rapporte de l'argent. J'ai fait un petit calcul en regardant ce que prévoient les analystes financiers qui font des estimations pour les dividendes au titre de 2020. Donc, puis c'est des analystes financiers, c'est quand même pas non plus totalement des gauchistes qui veulent abattre le mur de l'argent tous les matins. Bon, eux, ils anticipent un dividende de 4,07 euros par action. Je vous la fais très rapidement, ça veut dire qu'en gros, à ce prix-là, eh bien, l'État toucherait un rendement de 2,34%. C'est énorme. 2,34%, c'est énorme. Allez demander à votre banquier si vous avez pu investir sur un actif qui va vous rapporter 2,34%. Songez que...
Ça ferait combien de millions d'euros à la louche par an? Ça vous avez
alors,
une
estimation?
Parce que manifestement, aujourd'hui, c'est entre 100 et 200 millions d'euros. C'est ce qu'on peut lire, notamment d'ailleurs dans la pétition de Coralie Delhomme et David Kayla. C'est ce que ça rapporte en dividendes à l'État chaque année.
Oui, et puis aussi, quelque part, vous avez aussi la perspective de plus-value si vous faites de la cession un peu au fil de l'eau. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quand même une logique économique et financière qui est une logique fondamentalement, je dirais, perdante. C'est que, et là pour le coup, un banquier d'affaires, il fait tout l'inverse. On va céder un actif qui rapporte du 2,34% pour éviter de rembourser une dette qui nous coûte 1%. C'est-à-dire, je vends un actif qui rapporte deux fois plus pour éviter de m'endetter à un taux qui est, je dirais, deux fois plus, non, quatre fois moindre. Donc, le banquier fait exactement l'inverse. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il s'endette à un coût qui est faible pour racheter des actifs qui rapportent plus. Nous, l'État fait l'inverse. Pour des raisons idéologiques, je crois. Parce qu'on considère que, naturellement, l'État n'a pas à être propriétaire d'actifs qui sont pas directement régaliens.
Si on s'en tient au calcul économique, Augustin Landier, est-ce qu'on peut dire que l'État a davantage intérêt à rester actionnaire majoritaire des aéroports et en particulier d'Aéroports de Paris plutôt que de se désengager de ces infrastructures?
Eh bien, il est impossible de répondre à cette question sans avoir la variable clé qui est le prix auquel on arrive à vendre cet aéroport.
Mais c'est-à-dire que le cours du jour, vous qui êtes un économiste libéral, vous n'allez pas me dire que le cours du jour n'est pas la vérité des prix.
Mais bien sûr, le cours du jour, il reflète de l'incertitude sur l'issue des débats qu'on a en ce moment.
Vous savez bien que la vente, elle ne va pas se faire très éloignée du cours du jour.
Non, donc voilà. Je pense que la question, c'est est-ce que le prix qui va être obtenu est un prix... D'ailleurs, vous savez très bien que quand il y a des acquisitions, des OPA, ça se fait toujours au-dessus du prix du cours de l'action. Typiquement, il y a entre 20 et 30% de surcote au moment d'une acquisition. Donc, on peut escompter un prix plus élevé.
Les chiffres qu'on peut lire, c'est avec ADP, Engie et la Française des Jeux, ce serait 10 milliards d'euros.
Et si c'est bien fait, normalement, l'État devrait être exactement indifférent entre le vendre ou ne pas le vendre d'un point de vue purement de calcul actuariel financier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de penser que l'État se fasse avoir ou au contraire fasse une bonne affaire, entre guillemets. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que privatiser cette entité intégralement, cette entité sera mieux gérée ou pas qu'elle ne l'est actuellement? Est-ce qu'elle aura une capacité à investir plus qu'aujourd'hui? C'est pas évident, on peut avoir ce débat, mais je pense que c'est pas évident. Il y a des cas où c'est beaucoup plus naturel de le penser. Et encore une fois, je pense que le désengagement de l'État dans des entreprises du type Air France ou les constructeurs automobiles semble beaucoup plus naturel.
Ce que dit aussi l'État, et enfin en l'occurrence le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, c'est que cet argent va notamment être placé en obligations d'État qui rapporteront, alors là, ce qui est estimé, là aussi je vous dis les chiffres, hein, qui viennent de Bercy, là pour le coup, c'est 250 millions d'euros par an. Donc le calcul fait que placer cet argent en obligations d'État rapporterait davantage que les dividendes d'Aéroports de Paris. Bon,
mais là aussi, c'est un argument très étrange. Encore une fois, il n'y a aucune raison de penser que ces transactions financières, je vends, j'achète, soit à l'avantage ou au désavantage de celui qui vend ou qui achète. C'est-à-dire que dans des marchés relativement efficaces et dans une période qui n'est pas trop troublée d'un point de vue du secteur financier, normalement, on ne fait pas une bonne affaire, une mauvaise affaire quand on vend des biens avec une procédure d'enchère qui soit bien définie.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Les aéroports doivent-ils rester publics? C'est la discussion que nous avons ce soir avec Augustin Landier et Franck Dedieu, tous les deux économistes, et Nathalie Roseau, architecte et urbaniste, et vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, alors je ne suis pas du tout économiste ni financière, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Simplement, je pense que les juristes, par exemple, se sont positionnés récemment à propos de la question de la constitutionnalité. Mais je pense que dans la définition de ce qu'est l'actif aéroportuaire ou de ce qu'est le bien aéroportuaire, il y a des questions de périmètre qui se posent. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, des infrastructures ferroviaires, métro, qui irriguent l'aéroport, sachant que dans l'aéroport, il y a aussi effectivement la question de la compétence d'acheminer les passagers terrestres. Le Grand Paris Express, par exemple, le métro, futur métro, donc qui est financé par emprunt, mais enfin qui est public, va irriguer effectivement la plateforme de Roissy. De même, CDG Express est un projet qui va l'irriguer. Donc, jusqu'où va le périmètre?
CDG, hein, pour nos amis qui ne sont pas parisiens, c'est Charles de Gaulle.
CDG, c'est Charles de Gaulle, voilà, tout à fait. Et de même, la question de la riveraineté avec les communes ou, par exemple, de l'éventuelle contestation qu'il pourrait y avoir face à des méga-projets. On parle aujourd'hui d'Europa City, qui est dans l'orbite de Roissy, mais la future grande aérogare qui va être construite à Roissy, que certains appellent Space Invader, pourrait éventuellement soulever un certain nombre de contestations. Donc, toutes ces questions-là montrent qu'à un moment, on peut pas voir juste par rapport à un cours de la bourse ou par rapport à un cours d'actifs, et donc que ça pose un vrai problème de débat économique. Et puis, ce que je voulais ajouter, pardon, c'est que vous avez dit à un moment, bon, finalement, est-ce que l'État à rester dans une entreprise qui fait du commerce. Moi, je ne suis pas d'accord. Les aéroports, c'est pas du commerce uniquement, même si effectivement, la vision qu'on en a, souvent, est de ce registre. Et il y a une sorte de marchandisation des aéroports qui, effectivement, s'est engagée.
Vous pouvez y passer le week-end, on est comme dans un grand centre commercial.
Oui,
vous ne
savez
pas
que vous y passiez le week-end, mais si vous avez que ça à faire.
C'est vrai, j'ai une drôle de vie. Hein.
Oui, vous avez une drôle de vie. Bon, ça, c'est intéressant. Des cinéastes y ont passé beaucoup de temps aussi. Non, mais c'est un aéroport, c'est aussi celui qui favorise la mobilité aérienne. Et pour revenir sur une question qui est très importante, qui est celle du climat, on a quand même deux trajectoires qui sont assez divergentes. D'une part, effectivement, des rapports très alarmistes sur l'évolution du climat et qui préconisent quand même un certain nombre de recadrages par rapport à notre économie de croissance. Et d'autre part, effectivement, un transport aérien qui croît à raison de 3% par an en France, qui va exploser dans les années à venir. Donc là aussi, l'État a un rôle de régulation, alors qu'il ferait peut-être que les aéroports apporteraient moins d'argent, mais en tout cas qui montre qu'il y a une compétence de souveraineté aussi assez importante.
Alors le fait est, Augustin Landier, que la France a pris des engagements en matière climatique, à travers notamment l'accord de Paris à l'issue de la COP21. Est-ce que privatiser l'aéroport de Paris, ça n'enlèverait pas un outil de régulation à l'État sur ces questions? Si c'est un investisseur privé, on peut imaginer que ce qui va l'intéresser d'abord, c'est la rentabilité, et la rentabilité à court ou à moyen terme, mais que le long terme, c'est pas vraiment son affaire.
Alors là, je vois pas du tout l'argument. C'est-à-dire qu'autant je peux voir comment, du point de vue des investisseurs qui vont acheter ADP, ils doivent se poser la question de est-ce qu'on n'est pas en train de nous entorlouper en nous vendant un actif précisément au moment où l'État se mettrait peut-être à engager des processus de taxation et de limitation, disons, des vols, auquel cas ça serait un peu une sorte d'entourloupe. Donc j'imagine que du côté de l'acheteur de l'aéroport, cette question se pose. Mais du côté de l'État, c'est plutôt la logique inverse. C'est-à-dire que si l'État a en tête de diminuer le trafic aérien, c'est en un sens le bon moment, entre guillemets, de vendre l'aéroport. Donc c'est ça que je comprends pas très bien dans cet argument-là. Alors après, je suis, en revanche,
c'est peut-être pour ça qu'il le vend, alors, du coup.
Ah, c'est peut-être pour ça qu'il le vend.
C'est pas forcément un argument qu'ils ont en tête, mais c'est peut-être un impensé.
On est sur des logiques de très long terme.
En tout cas, la logique de restriction
Mais en tout cas, on est sur une logique, effectivement, de long terme, qu'il faut prendre en compte quand on.
Mais la manière dont ça fonctionnera, ça sera une taxation des vols pour faire vite.
Je ne sais pas de quelle manière ça fonctionnera. Et on voit bien que la question de la taxation, elle n'est pas évidente.
Mais ça ne sera pas en créant de la congestion artificielle dans l'aéroport pour décourager les gens de prendre l'avion. Enfin, c'est pas le bon moyen de restreindre le nombre de vols. Donc j'imagine que l'État peut réguler, hein, il peut très bien décider de taxer le kérosène des avions, et il y a pas mal de gens qui pensent que ce serait une bonne chose. Mais je pense qu'une politique qui consisterait à limiter artificiellement la croissance de l'aéroport pour que ça devienne vraiment très pénible de faire la queue pour prendre l'avion, ça serait probablement une manière inefficace de limiter le trafic aérien.
Franck de Dieu.
Oui, non, si vous voulez, moi, là où je trouve que finalement, quand on voit Air France, quand on voit KLM prendre, finalement, renationaliser une partie d'Air France, alors que c'est quand même le Pays-Bas le plus libre-échangiste de l'histoire dans le monde, c'est que au fond, il se dessine peut-être une nouvelle doctrine de l'État, où vous parliez d'environnement, mais où justement on se dit, mais quel est l'acteur qui aujourd'hui peut faire converger des intérêts économiques, des intérêts sociaux, parce qu'il faut maintenir quand même l'emploi, il faut aussi, il y a un retour aussi de la demande, etc. Et puis des intérêts environnementaux. Et là, pour le coup, il y a des débats doctrinaux, des thèses écrites sur le sujet chez les économistes, mais au fond, on s'aperçoit, et là, en ce sens, quelque part, la modernité d'Emmanuel Macron a terriblement vieilli avec l'affaire KLM, mais quelque part, c'était... En gros, depuis Lehman Brothers, il y a une nouvelle doctrine, c'est-à-dire que l'État, on s'aperçoit, est le seul acteur qui a la capacité, tout simplement parce qu'il a une légitimité démocratique et il représente l'État-nation, à faire converger des intérêts dont on croyait que le marché assurerait lui-même une sorte de convergence par la magie de l'offre et de la demande. Et on s'aperçoit que l'État est le seul acteur qui pourrait arriver, et l'exemple de l'aéroport de Paris est assez symptomatique de ce point de vue, à faire converger ces intérêts tripartites, environnement, social et aussi fiscal, économique.
Augustin Landier, il y a quand même un exemple qui va peut-être plutôt dans le sens de ce que vient de dire Franck de Dieu, c'est l'aéroport de Toulouse, le cas de l'aéroport de Toulouse, qui a été racheté par des investisseurs chinois, et une gestion qui a été très critiquée, notamment par la Cour des comptes, disant, voilà, cet investisseur avait promis aussi d'investir dans la région, ça n'a pas été fait, non seulement ça n'a pas été fait, mais l'investisseur a aussi pioché dans les réserves de l'aéroport de Toulouse, je sais plus quelle somme ça représente, mais enfin, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et aujourd'hui, cet investisseur, après manifestement s'être un peu servi, envisage de se séparer de cette infrastructure.
Oui, d'ailleurs, et du coup, elle va être récupérée, hein, parce que les contrats sont bien faits. Tout de même, les contrats prévoient que si le cahier des charges n'est pas rempli, il y a des clauses qui permettent de récupérer l'actif. Dans le cas, effectivement, de la critique de la Cour des comptes, c'est une critique qui est valide, alors qui rejoint le thème de la souveraineté, mais sous un angle qui est différent de celui de dire la douane ne va pas fonctionner comme elle devrait. C'est vraiment l'idée que il peut y avoir un agenda, en l'occurrence celui des Chinois, qui peut ne pas correspondre, qui peut être d'une part assez opaque, et puis ne pas correspondre à l'intérêt de la région, etc. Je crois que jusqu'à présent, la nuisance qui aurait été causée par cette privatisation, elle est limitée, difficile à chiffrer. Mais en tout cas, ce que ça souligne, c'est que le détail de ces contrats, des cahiers des charges, est complètement crucial. Et donc effectivement, si c'est mal fait, ça peut être catastrophique et très préjudiciable. Et donc il faut vraiment se poser la question de la liste des éléments d'un cahier des charges précis pour ce qui concerne un aéroport.
Ça suppose qu'il y a un minimum de transparence. Franck de Dieu et ensuite
l'aéroport
Nathalie Rozon.
L'aéroport de Toulouse-Blagnac souligne aussi que par-delà les questions contractuelle, il y a eu une tendance de la part de l'actionnaire chinois majoritaire, d'avoir des distributions de dividendes extrêmement importants, tout simplement parce qu'il fallait tout de suite rentabiliser son actif. Et des dividendes importants, eh bien, tout simplement, ça veut dire que on investit moins. On investit moins sur les infrastructures et tout cela a des conséquences sur toutes, je dirais, sur toutes les collectivités locales environnantes. Et au fond, se pose la question, mais clé depuis finalement les premiers débats au niveau de l'Europe, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut assurer des missions de service public, hein, de service aux collectivités, avec, je dirais, des considérations, des schémas qui sont de maximisation des profits. Il se trouve que...
Bah, regardez les autoroutes, ça fonctionne plutôt bien.
Bah, ça fonctionne plutôt bien, oui, pour, en tant qu'automobiliste, mais ça ne fonctionne pas en ce qui concerne le prix. Hein, c'est quand même des autoroutes à des péages qui augmentent fortement.
Et mais le réseau autoroutier est plutôt bien entretenu par rapport au reste du réseau routier français.
Oui, sauf que tout le monde s'en plaint et il se trouve que les prix, là, on parlait de vérité des prix et de dire finalement la question du prix n'est pas importante. Pourquoi ? Parce que les marchés sont naturellement efficients.
Mais donc, ça, c'est...
Non,
mais là,
sauf que non, les autoroutes, ça a été bradé et aujourd'hui, tout le monde, y compris François Bayrou, considère que ben, ça fut une erreur.
Alors, une contre-réaction d'Augustin Landier, ensuite promis de Nathalie Roseau.
Ouais. Non, mais alors... Personne, je ne connais pas un seul économiste qui pense que les marchés sont magiques et fonctionnent tout seuls. C'est-à-dire que même les économistes les plus pro-marché pensent que l'État a un rôle régulateur à jouer qui est clé et que dès qu'il y a des monopoles naturels, c'est le cas pour l'approvisionnement de l'eau, les autoroutes, l'État doit imposer des limites sur les prix. Donc en fait, les prix ne sont pas décidés par l'opérateur privé dès qu'il y a une situation de monopole naturel. Et donc là, évidemment que l'aéroport de Paris privatisé, dans le cahier des charges, c'est pas l'entreprise qui décidera combien on taxe les passagers et les lignes aériennes, enfin les compagnies aériennes, ça sera décidé par un régulateur, par une entité autonome. Et ça fait partie de la doctrine justement de la manière dont on régule des monopoles naturels s'ils sont pas directement managés par l'État. Le prix ne doit pas être décidé par l'entreprise elle-même. Et dès aujourd'hui, c'est pas le cas d'ailleurs. Ça serait très pervers que ADP puisse décider des prix, sinon il se comporterait en monopole et il surtaxerait massivement et créerait une espèce de rareté artificielle des avions, ce qui n'est pas souhaitable, sauf si on pense effectivement que le but c'est de limiter le nombre de vols de manière un peu détournée.
Nathalie Roseau.
Oui, c'était juste pour réagir à la question du rôle de l'État, effectivement indispensable pour des questions de souveraineté ou pour des questions liées à l'État. Je pense qu'il y a aussi la question des métropoles, on l'a vu notamment au travers des COP récentes et de la COP de Paris notamment, où s'est constitué effectivement un réseau des grandes métropoles. Et c'est en cela qu'effectivement la montée des départements est assez intéressante. La région, ce serait aussi intéressant qu'elle monte, la métropole du Grand Paris, parce que ce sont des pouvoirs qui peuvent effectivement compter au même titre que l'aéroport de Toulouse, effectivement, était géré anciennement, j'imagine, par la Chambre de commerce de Toulouse, et au même titre que l'aéroport de Schiphol, à Rotterdam, est au centre, en fait, d'un chapelet de ville, la Randstad, qui correspond effectivement à la grande métropole des Pays-Bas. Donc, il y a effectivement cet enjeu derrière aussi entre trois pouvoirs, l'État, les grandes métropoles, on va dire, et puis des grands opérateurs de réseau. Bon, évidemment, on pense à Vinci, mais à d'autres qui, effectivement, ont acquis des sortes d'empires territoriaux et qui jouent une carte aussi dans la manière dont l'aménagement du territoire se négocie.
Alors, vous évoquiez il y a un instant, Augustin Landier, le terme de monopole. Cette question-là, elle est justement évoquée par les opposants à la privatisation d'Aéroports de Paris pour en faire un argument d'anticonstitutionnalité. Dans la Constitution, dans le préambule de la Constitution de 1946, il est notamment dit ceci. Tout bien, toute entreprise dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité. Donc pour les opposants, c'est la preuve que cette privatisation serait anticonstitutionnelle. Il y a le Conseil d'État qui a déjà donné son avis là-dessus, pas sur la conformité à la Constitution, mais en disant, en tout cas, les aéroports qui sont exploités par Aéroports de Paris, ils le font sur un territoire donné, qui est le territoire francilien. Donc on ne peut pas parler de service public national, et donc pas vraiment non plus de monopole. Qu'est-ce que vous pensez de cette lecture-là ? Est-ce que aujourd'hui on est en train de parler de la privatisation d'un monopole ou de quelque chose d'autre qu'un monopole. Nathalie Roseau.
Voilà.
Compliqué.
Merci
hein.
de votre question.
Vous avez 4 heures.
Écoutez, je ne suis pas juriste ni économiste. C'est vrai que les
aéroports... Pas forcément d'un point de vue juridique, mais oui. finalement de fait, est-ce que c'est pas un monopole de fait aujourd'hui Aéroports de Paris ? C'est-à-dire, est-ce que quand on est un passager, on peut mettre finalement les services qui sont offerts en concurrence, se dire bah tiens, plutôt que d'aller à Roissy, je vais aller à Nantes ou je vais aller à Montpellier pour faire mon vol international.
Nantes et Montpellier, non, parce que.
Enfin, je prenais des France... exemples
non,
au hasard.
Vous avez raison de poser cette question parce que la France est ainsi constituée qu'effectivement, je crois que 80% des vols internationaux transitent par Paris. Alors c'est vrai qu'on a un pays avec beaucoup d'aéroports, un peu trop d'ailleurs, mais enfin on va quand même rester effectivement sur cette géographie très centralisée effectivement sur la région parisienne. Il peut y avoir éventuellement une concurrence entre ce qu'on appelle les hubs et notamment les hubs européens et notamment avec les jeux effectivement des alliances de compagnies aériennes, mais est-elle tangible ? Ça je n'en sais rien. Ce qui est clair c'est qu'effectivement les aéroports parisiens sont situés effectivement en région parisienne, donc territorialement implantés, et qu'effectivement pour rentrer en France, il faut passer par cette porte d'entrée. Après, on pourrait imaginer un réseau d'aéroports européens relié par la grande vitesse territoriale et du coup avoir une sorte d'infrastructure européenne. Enfin bon, imaginez toute une série de choses. Mais effectivement, c'est une question juridique qu'il faut poser.
Je vais vous poser la même question, Franck Dedieu et Augustin Landier, mais peut-être de manière un petit peu plus simple. Est-ce que privatiser Aéroports de Paris, ça reviendrait à faire passer un monopole public à un monopole privé ?
Bien sûr, il n'y a pas de concurrence aux 300 km à la ronde. Donc, moi, je suis pas un grand spécialiste des zones d'échange aéroportuaires. Mais quand vous n'avez pas de concurrence à 300 km à la ronde, pour moi, il y a un véritable monopole de fait. En ce qui concerne 46, il s'agissait, je crois, de justifier une nationalisation. Là où c'est un peu tortueux, c'est qu'il suffirait de justifier une non-privatisation. C'est-à-dire de faire en sorte, en 46, on voulait faire en sorte de prendre le capital pour le nationaliser et qu'il soit la possession de l'État. Là, il s'agirait, à l'aune de cet article, de faire en sorte de garder le capital dans les mains de l'État par l'idée du monopole. Là aussi, je ne suis pas juriste, mais on sait comment ça se passe. À partir du moment où vous avez un monopole de fait, eh bien, vous avez une augmentation des prix. Regardez ce qui s'est passé sur les autoroutes. Alors, vous aviez raison, il n'y a pas de trous sur la chaussée, donc elles sont bien entretenues. Mais si vous posez la question aux usagers, eh bien, vous allez vous apercevoir qu'ils sont mécontents de cela. Et à partir du moment où il n'y a pas de concurrence, eh bien, ça fait augmenter les prix. Moi, ça ne me gêne pas d'augmenter les prix quand il s'agit de l'État. Et d'ailleurs, d'un point de vue même boursier, on pourrait s'imaginer que là aussi, c'est pas... Les citoyens ne vont plus recevoir les dividendes. Et c'est ça aussi cette question-là. Ils ne vont plus recevoir les dividendes d'Aéroports de Paris.
Augustin Landier.
Donc ça, sur ce point précis, encore une fois, hein, ça dépend à quel prix ils vendent cette rente. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'ils seront lésés. Mais en revanche, il s'agit bien d'un monopole. Il y a un caractère monopolistique de cette infrastructure. Il n'y a pas de doute. Enfin, ça me semble absurde de le contester. Après, c'est pas un monopole absolu.
Il s'agit bien d'un monopole et il s'agit bien d'une rente, puisque vous
Il s'agit bien d'une rente, mais on sait, enfin, le fait.
Bah ça pose quand même un problème de se dire qu'on fait passer un monopole public au privé avec justement cet effet de rente.
Ça veut dire que la régulation des prix, la réglementation des prix, c'est peut-être plus français, les anglo-saxons disent régulation, mais il s'agit évidemment de ne pas laisser cette entreprise décider elle-même des prix qu'elle fait payer à la fois aux usagers, parce que c'est une plateforme, hein, donc les usagers particuliers qui vont prendre des vols et les compagnies aériennes. Là, les prix qui sont payés par ces deux parties de la plateforme, ces deux consommateurs de la plateforme, doivent être régulés par l'État. Il n'y a pas de doute là-dessus, parce que justement, il y a un caractère monopolistique. Et puis par ailleurs, il y a des externalités qui sont assez fortes, qui renforcent cette importance de la régulation. C'est celles dont on parlait, qui sont liées à l'aménagement du territoire, au tourisme, à des objectifs de développement que la région peut avoir. Et donc, ces deux choses, encore une fois, n'interdisent pas une privatisation, mais en revanche, nous disent qu'il faut une autorité qui décide des prix que payent les usagers de la plateforme et cette autorité doit être bien fournie, dotée du capital humain et des données nécessaires pour bien établir ces prix.
Il y a quand même une clientèle captive pour les aéroports du fait de l'absence de concurrence à proximité qui fait que pour un investisseur privé, c'est un investissement qui paraît assez peu risqué finalement, non ?
Mais alors je ne crois pas parce que je pense que, et c'est là, c'est pour ça que je pense que le timing n'est pas forcément bien choisi pour cette privatisation, je pense que la faiblesse de Charles de Gaulle en particulier, c'est le fait qu'il est pour l'instant mal desservi par un train. Et donc tant que cette question n'est pas complètement réglée, il y a une sorte d'incertitude qui pèse finalement sur le devenir de cet aéroport, avec le risque pour un investisseur de devoir renégocier finalement dans les années qui viennent cet accès au train express vers l'aéroport. Mais c'est la grande faiblesse de Charles de Gaulle. D'ailleurs, quand on voit les plaintes des usagers, ça concerne toujours cet accès à l'aéroport, beaucoup plus que la gestion de l'infrastructure une fois qu'on est dedans.
En tout cas, comme vous le disiez, Nathalie Roseau, ça suppose de prendre en compte pas seulement ces aéroports et le foncier, mais aussi tout ce qu'il y a autour.
Tout ce qu'il y a autour, y compris dans la région et pas seulement dans la relation avec Paris.
Ouais. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Nathalie Roseau, Franck Dedieu et Augustin Landier. On peut retrouver donc vos références bibliographiques sur notre site, sur lequel on peut également réécouter l'émission franceculture.fr, la page du Grain à Moudre, la télécharger, nous écrire et d'ici quelques heures voir des extraits vidéo de vos échanges. Merci à l'équipe du Grain, Cyril Marchand, Antoine Tricot, Léa Capuano, Antoine Dulster et Camille Fouchard. Émission réalisée par Peyret Legras avec à la prise de son Élise Leu. Dans 3 minutes, un peu plus, ce sera la dispute à Edouard de la Porte.
Oui. J'ai même le temps de vous dire qu'on parlera d'une dispute art plastique le mercredi soir. On parlera de l'exposition du musée Pouchkine à la Fondation Custodia, d'Elsworth Skelly au Centre Pompidou, de Théo Hernandez à la Villa Vassiliev, et puis aussi un coup de cœur sur l'exposition de Rosemary Castoro chez Tadeusz Ropak. Comme ça, il me reste le temps de vous demander la question du Grain à Moudre de demain, Hervé.
Bah demain, on va parler du plagiat et de la création dans le domaine de l'humour avec un titre que je ne suis pas sûr d'assumer encore jusqu'à demain soir.
Je me réjouis d'avance.
Est-ce que Pompée s'est trompé ? Eh oui, c'est la question qu'on a retenue. Voilà. J'assume l'entière responsabilité de ce titre. Bon, on se donne rendez-vous demain.
Oui, je vous laisse patauger, c'est tout. Je vous laisse patauger après ce titre navrant.
Ouais, je l'aime bien.
Vous changerez d'idée pour demain.
Bah, ouais.